Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Polygraphe.
Vers la modernisation, la police.
Recueil écrit en prison.
Relations diplomatiques.
Confluence hispanique.
Dans le champ de la citoyenneté.
Caïman Barbudo.
Le mouvement autonome.
Entre l'université et la société.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez Radio Extérieure d'Espagne. Sylvain Lloret, membre scientifique Casa de Velázquez. Sujet, relations diplomatiques hispano-françaises. Sylvain Lloret s'intéresse à la lutte des puissances, ou plutôt à un aspect de cette lutte qui couvre le renseignement, le noyautage, l'infiltration. Mais il n'a pas non plus voulu faire simple. Il choisit une époque où les écoutes téléphoniques, les balayages de messagerie électronique n'étaient pas encore à l'ordre du jour, puisque nous nous situons au XVIIIe siècle. Il a choisi aussi, pour encore plus compliquer les choses, un type de relation exclusivement franco-espagnole, un type de relation dont on ne trouve d'exemple nulle part ailleurs.
Alors tout à fait. J'ai coutume de dire d'ailleurs que je travaille sur un objet diplomatique non identifié. C'est-à-dire que l'agent que j'étudie n'existe, comme vous l'avez rappelé, qu'en Espagne. Pour être clair, il n'existe pas d'agent équivalent pour les autres nations étrangères présentes en Espagne, ni même ce type d'agent pour la France dans les autres pays étrangers à cette époque. Ce qui montre bien le côté très particulier des relations diplomatiques entre la France et l'Espagne à cette époque-là. Vraiment, je crois que la relation franco-espagnole est à part. Elle n'est pas comparable à ce que peuvent être les relations diplomatiques avec les autres pays. Vraiment, je crois qu'il y a un primat, une plus-value dans la relation diplomatique franco-espagnole. Et cela est vraiment dû, je crois, à la relation de famille entre les souverains espagnols et français à cette époque-là. Donc, simplement, pour recontextualiser un petit peu ma période, le début donc de ma période est marqué par un tournant diplomatique entre la France et l'Espagne. Donc, pour le dire très simplement, en 1700 se produit moi ce que je pourrais appeler une révolution diplomatique, c'est-à-dire concrètement que l'Espagne, qui était l'ennemi héréditaire depuis près de deux siècles, hein, depuis pensons aux guerres hein, entre Charles Quint, François Ier, eh bien en 1700 l'Espagne devient le premier allié de la France et premier allié au nom d'une alliance de famille. C'est-à-dire que sur le trône d'Espagne monte sur le trône donc le petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, et donc ce qui montre bien qu'on a une alliance de famille, c'est-à-dire qu'une même dynastie règne de part et d'autre des Pyrénées. Donc l'ennemi héréditaire devient le premier allié au XVIIIe siècle.
Et ce premier allié a une importance maritime telle qu'on sent la nécessité d'avoir une représentation spécifique pour les questions commerciales maritimes. Est-ce que Madrid fait la même chose ? Est-ce que Madrid a aussi un représentant diplomatique de ce genre ?
Alors, c'est une question à laquelle je me suis évidemment intéressé et j'en suis venu à la conclusion que non. Alors, il faut quand même nuancer, savoir qu'il y a une courte période au XVIIIe siècle qui va durer à peine 3-4 ans, donc vraiment une toute petite parenthèse, où les Espagnols vont tenter de mettre en place l'équivalent de cet agent français, mais cette fois-ci à Versailles, donc un agent espagnol à Versailles, en charge des questions commerciales et maritimes. Mais pour diverses raisons, cette tentative de mise en place va se solder par un échec, et l'Espagne n'aura plus jamais un agent équivalent en territoire français.
Donc, on va essayer d'en savoir plus sur cet agent qui n'existe que dans cette relation franco-espagnole. Cet agent, finalement, qu'est-ce qu'on lui demande ? Qu'est-ce qu'il doit observer ? Qu'est-ce qu'il raconte dans ses rapports à Paris ?
Alors, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. La théorie et la pratique, pour le dire simplement. Alors, ce type d'agent reçoit des instructions. Comme tout agent diplomatique, que ce soit les ambassadeurs, les consuls ou l'agent très particulier que j'étudie, ils reçoivent des instructions de leur ministre de tutelle. Et l'agent que j'étudie est rattaché à cette époque-là au secrétariat d'État de la Marine, donc l'équivalent du ministère de la Marine.
Donc on s'attendrait à ce qu'il fasse des déplacements permanents vers les côtes, en Galice, en Méditerranée, etc.
Voilà. Et cependant, ce que l'on observe, c'est un écart très important entre les instructions qu'il reçoit et sa pratique concrète, son action concrète au quotidien sur le terrain. Ce qui montre bien que finalement ces agents, par leur réseau, par leur connaissance de l'Espagne, par leur expérience du pays, par leur capacité à se concilier les bonnes grâces de leurs interlocuteurs, eh bien ont acquis, finalement, parviennent à dessiner les contours de leur fonction. C'est-à-dire que par la pratique, ils redessinent les contours d'une fonction qui est finalement assez mal dessinée. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, leur première mission, c'est d'écrire. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, au XVIIIe siècle, eh bien, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone. Donc, ces agents vont écrire une correspondance non seulement très conséquente, une fréquence très importante, hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 2 à 3 lettres par semaine, ce qui est absolument colossal. Donc non seulement en quantité, mais en densité d'informations. C'est-à-dire que chaque lettre est très exhaustive, très fournie, très dense. Et surtout, les informations contenues dans ces dépêches diplomatiques, sont de nature très diverse. Alors, c'est avant tout des renseignements économiques et commerciaux. C'est la première mission de l'agent général. Cependant, cet agent ne se cantonne pas à une information de nature maritime et commerciale. Et en fonction des périodes, l'information de nature politique a un poids plus ou moins important. Par exemple, entre les années 1702, donc la mise en place de cet agent, et 1715, donc la mort de Louis XIV, les informations de nature purement politique et les informations commerciales et maritimes, eh bien, sont à peu près égales en termes de volume dans les dépêches de ces agents. Donc, ce qui montre bien que cet agent est un véritable radar de l'information. C'est une sorte de plaque tournante qui collecte non seulement l'information, mais qui la redistribue. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui permet au gouvernant français, à son ministre, qui est le secrétaire d'État de la Marine, d'avoir une connaissance assez aiguë du terrain.
Se demander, mais bon, s'il fait le travail d'un agent diplomatique, je suppose qu'à ce moment-là, il y a un ambassadeur.
Tout à fait.
Il y a des. Pourquoi alors on a l'impression qu'on double la fonction de l'ambassadeur par cet agent qui ne dépend pas du ministre, comment on aurait dit, de la diplomatie.
Tout ça s'appelle le ministre des Affaires étrangères.
Des Affaires étrangères. Donc, est-ce que c'est un problème franco-français que peut-être le roi a plus confiance en son ministre ou dans le ministère de la Marine que dans celui des Affaires étrangères ou pourquoi ?
Vous avez tout à fait raison, c'est un aspect important de mon travail. À savoir qu'à cette époque, pour se rendre compte de ce que sont les pratiques diplomatiques au XVIIe, au XVIIIe siècle, eh bien, il faut savoir que la source de l'information n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il existe des réseaux d'informateurs français à l'étranger, mais ces réseaux ne sont pas uniques. C'est-à-dire que parfois, les gouvernants peuvent envoyer plusieurs réseaux rattachés à des secrétariats d'État différents, des réseaux qui peuvent être complémentaires, des réseaux qui peuvent être concurrents, des réseaux qui peuvent également rentrer en rivalité, se tendre des pièges. Donc tout cela est d'une très grande complexité. Dans le cas qui nous intéresse, dans le cas espagnol, eh bien, l'ambassadeur qui est en poste à Madrid à cette époque-là ne connaît quasiment rien aux affaires maritimes et commerciales. Tout simplement parce que les affaires économiques apparaissent comme des affaires de second rang à cette époque-là. On n'est pas, vous voyez, dans le domaine de la grande diplomatie, de la grande politique. Et l'idée, au fond, dans la représentation des gens du temps, c'est que les affaires purement politiques ont une plus grande noblesse par rapport au commerce, qui est un domaine plus subalterne. Cependant, au moment de l'arrivée sur le trône de Philippe V, donc le petit-fils de Louis XIV, eh bien, les affaires maritimes et commerciales prennent un poids encore plus important dans la diplomatie franco-espagnole. Et véritablement, c'est le commerce qui devient la colonne vertébrale de cette union, de cette tentative d'union franco-espagnole. Donc le gouvernement français à cette époque tente de s'impliquer davantage dans les affaires économiques et commerciales et donc envoie un collaborateur auprès de l'ambassadeur français à Madrid qui est une sorte de spécialiste qui va mettre sa compétence au service de l'ambassadeur. Ce qui montre bien que le réseau des affaires étrangères, incarné par l'ambassadeur, et le réseau de la marine, incarné par cet agent général, travaillent en étroite symbiose, en étroite interaction. Ils ne sont pas rivaux ou concurrents, mais l'agent général met sa compétence, met sa technicité au service d'une diplomatie commerciale franco-espagnole.
À l'époque, on en était encore aux ambassadeurs à particules. Les ambassadeurs venaient de familles nobles, etc. Ils avaient souvent des relations familiales dans les pays où ils étaient envoyés. Mais il fallait cette touche, cette particule. Est-ce que l'agent diplomatique pour le commerce et la marine étaient recrutés dans les mêmes milieux. Ou alors il y avait une spécificité qui faisait peut-être qu'ils pouvaient aller vers des sujets peut-être moins nobles.
Tout à fait. Alors, c'est très intéressant, évidemment, de s'intéresser au profil social, au parcours professionnel de ces hommes, pour bien montrer justement cette complémentarité que j'évoquais entre l'ambassadeur d'une part et ses agents. Ces agents, hein, comme vous l'avez suggéré, n'appartiennent pas au même milieu social que les ambassadeurs. Alors, il faudrait évidemment distinguer en fonction des cas. Hein. Dans mon corpus d'agents, j'ai 11 agents différents, donc ça fait autant de parcours professionnels, autant de cheminements, d'expériences différentes. Mais cependant, on peut quand même distinguer des invariants, des permanences parmi ces profils, et notamment le fait que la plupart de ces agents sont issus, par rapport aux ambassadeurs, de milieux plus subalternes. Alors, ce ne sont pas évidemment des gens issus de ce qu'on pourrait appeler le peuple au sens large du terme, hein, mais ce sont des gens très souvent issus d'une petite noblesse, anoblie très récemment, et donc très loin de ces grands lignages prestigieux qu'étaient les ambassadeurs. Donc, par exemple, hein, si je pense à l'un des agents que j'étudie, qui s'appelle Édouard Boyeté, qui est agent général de la marine et du commerce de France à Madrid entre les années 1772 et 1784. Ce dernier est noble, cependant l'anoblissement est très récent. C'est son père qui a été anobli, donc l'anoblissement date d'une seule génération. Et donc on est très loin de ces grands lignages. Hein. Pensez par exemple à l'ambassadeur Amelot de Gournay, ambassadeur de France à Madrid entre 1706 et 1709, qui appartient à un très vieux lignage prestigieux. Pensons également au duc de Saint-Simon, plus connu hein, pour sa description de la cour de Louis XIV, et qui là encore est un personnage de très haut rang à cette époque.
Alors, 11 agents diplomatiques étudiés, suivis, donc vous avez suivi les parcours, vous me dites qu'il y a différentes origines, mais plus ou moins bon, des récurrences, et est-ce que vous auriez, nous adorons les anecdotes ici, est-ce qu'il y avait des personnages?
Oui, tout à fait. Alors
qu'on
imagine... si je devais en distinguer une, peut-être une personnalité qui s'écarte un peu de ces invariants que j'ai essayé de vous décrire lors de ma réponse précédente, ça serait peut-être celle de l'abbé Augustin Béliardi. Alors Augustin Béliardi, pour vous le dresser à gros traits, c'est un abbé italien, qui est agent général entre les années 1758 et 1771. Et contrairement à ses prédécesseurs, hein, c'est vraiment ce qui fait sa spécificité, il n'est pas français. Alors qu'en théorie, c'était quand même une des conditions pour représenter les intérêts commerciaux français en Espagne. Eh bien, lui déroge à cette règle. Il n'est pas français, c'est un Italien. Et vous voyez la complexité du personnage. C'est un Italien
abbé.
Abbé italien qui travaille pour la France en Espagne. Ce qui vous montre un peu ce que pouvaient être les circulations dans cette Europe du XVIIIe siècle. Au fond, l'abbé Béliardi incarne bien ce cosmopolitisme de l'Europe des Lumières. Une Europe finalement assez ouverte à la circulation, où l'allégeance peut passer d'un prince à un autre et ne se cantonne pas forcément au service d'un seul et même État. Alors cet abbé Augustin Béliardi est très intéressant, notamment donc, il a une carrière assez longue hein, avant d'accéder au poste d'agent général à Madrid. Donc, il va d'abord travailler à Rome. Il occupe un poste auprès de ce qu'on appelle la rote romaine, donc c'est un tribunal ecclésiastique romain. Puis il va arriver en Espagne dans les bagages de l'ambassadeur italien, enfin romain, à Madrid à cette époque-là, le cardinal Porto Carrero. Et très vite, il va se faire remarquer par les Français, par les milieux français qui fréquentent justement, que cet abbé fréquente largement, et il va être recruté. Et il va devenir l'homme d'un grand ministre français à cette époque-là, Monsieur Choiseul, qui est l'homme, il faut bien le remettre en perspective, l'homme du troisième pacte de famille. Le troisième pacte de famille, c'est un traité très important signé entre la France et l'Espagne en 1761, en pleine guerre de 7 ans. Et ce traité a une importance capitale, déjà parce qu'il renouvelle l'alliance entre la France et l'Espagne face aux pays coalisés hein, contre
la
France.
Et entre les deux familles.
Et entre les deux familles, tout à fait. Et puis surtout, certaines clauses, l'article 24 et l'article 25, prévoient finalement des clauses commerciales, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les Français doivent bénéficier des mêmes clauses avantageuses que les Espagnols en Espagne. Donc vous voyez, c'est quand même un abbé très important qui non seulement aura un rôle, on va dire, consulaire, d'informateur classique, mais également un rôle pleinement diplomatique, quelqu'un qui va s'insérer dans les milieux de cour et qui va participer à la discussion entre les gouvernements. Et simplement, pour terminer sur cette figure, il faut bien comprendre que l'abbé Biliardi correspond un peu au prototype de l'homme des Lumières de cette époque. C'est un peu un touche-à-tout. Quelqu'un qui est curieux de tout, qui s'intéresse à tout, qui a une soif de savoir, l'idée d'un savoir encyclopédique, hein, un peu à l'image de ce que pouvait être la grande entreprise de Diderot et d'Alembert. Et j'ai eu la chance de retrouver, dans les papiers de l'abbé Béliardi, conservés à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, des notes de voyage, mais également des notes rassemblées en carnet, dans lesquelles il rassemble différentes préoccupations, des notes relatives à différents sujets, mais des sujets aussi vastes. Hein. Par exemple, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être l'extrait d'une pièce de théâtre.
Vous disiez de l'esprit.
Exactement.
Féministe.
Il correspond tout à fait à cet esprit illustré des Lumières de cette époque.
Votre présence à Madrid vous a permis de trouver une documentation importante sur cela, ou comme ils adressaient leur rapport à Paris, je suppose que le gros est à Paris.
Alors, ma présence en Espagne se justifie essentiellement pour comprendre, pour approcher le rapport de ces agents à la société espagnole. C'est-à-dire que je ne me contente pas dans mon travail de simplement d'analyser les dépêches qui sont rassemblés, qui sont centralisés dans les administrations de la marine à Versailles à cette époque.
Mais comment les Espagnols...
Quel est leur rapport à l'Espagne qui détermine, ou en tout cas qui est l'horizon d'un discours que produisent ces agents. Et il faut bien avoir à l'esprit que ces agents ont un rapport très ambigu, très complexe à la société espagnole, qui mêle à la fois collaboration, entente, voire même intégration, mais aussi résistance, conflictualité et rejet. Et c'est ce rapport à la société espagnole que j'essaie de déterminer dans des fonds d'archives très dispersés en Espagne. Donc par exemple, essayer de comprendre quel type de relation ces agents nouaient au sein de l'administration espagnole, quel type de requêtes ils adressaient, quels étaient également leurs informateurs concrètement sur le terrain, comment ils assuraient ce lien finalement entre les acteurs de terrain, donc les consuls français présents dans les différents ports de la péninsule, les négociants français, l'administration espagnole au sens large du terme, et puis les sphères de pouvoir, le monde de la négociation, le monde de la grande politique et de la diplomatie. C'est-à-dire comment finalement ils assurent le cheminement qui mène de l'information, du terrain, à la sphère politique, à la discussion entre gouvernements.
Ils se déplaçaient beaucoup.
Alors ils suivaient, mais certains suivaient régulièrement la cour. À cette époque, hein, la cour d'Espagne était un peu girovague, hein, n'était pas fixée.
Las jornadas.
Exactement. Et donc, ces agents suivaient la cour parce qu'ils devaient être en permanence informés de ce qui se passait. Ils devaient être au contact du terrain. Et donc, qui dit être au contact du terrain dit avoir un accès permanent à l'administration espagnole, aux subalternes, aux secrétaires d'État. Donc, une obligation de se déplacer. Et pour revenir à cet abbé Béliardi, j'ai retrouvé... alors, de manière purement fortuite, hein, lors d'une visite à l'Escorial, en allant à l'office de tourisme à San Lorenzo de la Escorial, la mention d'une maison, dont le nom m'a tout de suite intrigué, intitulée Casa del Consul de Francia, la maison du consul de France, et en y allant, il y avait un écriteau touristique qui disait que cette maison avait été édifiée sous les ordres de l'abbé Béliardi, et ce qui est intéressant de voir, c'est la localisation de cette maison. Il faut voir que cette maison jouxte pleinement l'Escorial, ce qui permettait à l'abbé Béliardi d'avoir un rapport direct, d'avoir une proximité géographique avec ses interlocuteurs en Espagne. Donc vraiment des agents qui collaient aux sphères de pouvoir espagnoles. Thank you.
Ce serait bien de voir, par exemple, quand ils suivaient la famille royale à la Jornada de Primavera à Aranjuez, et s'il y a de la documentation sur cela.
Sachant que certains de ces agents, avant de devenir agent général à Madrid, avaient occupé d'autres fonctions en Espagne. Certains avaient été consuls de France dans d'autres ports, donc connaissaient très bien l'Espagne, avaient une connaissance aiguë du terrain, ce qui la distingue pleinement des ambassadeurs. Des ambassadeurs qui... Bon, pour donner une expression un peu complètement anachronique, même, était un peu la jet set de l'époque. Vous voyez, c'était des gens qui amenaient leur titre, leur noblesse finalement, mais les techniciens de la chose économique, de la chose commerciale, c'était ces agents. C'était ces hommes de l'ombre qui apparaissaient comme officiellement des subalternes, mais qui étaient, je crois, les acteurs centraux de cette diplomatie économique franco-espagnole.
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils pouvaient passer d'une nation à une autre, d'une fonction à une autre.
Tout à fait.
Très intéressant, Sylvain. Et vous êtes en train de finir là ou...
Alors, bon, vous savez, hein, ce qu'on dit lorsqu'on nous demande à quel stade on en est pendant cours de thèse, on n'a jamais été aussi près de la fin. Hein. Mais bon, là, je suis en quatrième année de thèse. Et je suis encore en train de faire du terrain en Espagne, ce qui est le bien fondé de ma présence à Madrid. Mais voilà, je m'approche progressivement de la rédaction.
C'est très bien.
Confluence hispanique, un programme proposé par Emmanuel Zar avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Juan Crisóstomo de Aliaga, quartet pour cordes numéro 2 en La majeur, premier et troisième mouvement. Fernando Sol, valse numéro 1 pour deux guitares et sonate pour guitare en Do majeur.